BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
C'est sympa de se retrouver, non? Bah moi, je suis très content. Oui, je sais. Les vacances sont terminées. Tout le monde annonce une galère pour la rentrée. On va pas avoir de quoi se chauffer cet hiver. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Alors, vraiment exceptionnelle, d'abord parce que c'est la première de la rentrée. Parce qu'on a changé un petit peu la formule, en fait pas tellement, un peu quand même. Parce qu'on va vous donner, alors c'est les invités avant de venir, m'ont dit écoute, on y voit hyper clair. Et donc on va vous donner, on va donner des indications. Là on voudrait vraiment être précis, parce que d'habitude dans toutes les émissions, bon, on discute un peu de tout et de rien. Mais là on y voit tellement clair qu'on va donner des indications, toutes les clés. Économiques, financières et placements pour la rentrée. Alors moi, vous le savez, hein, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Surtout la première de la saison. J'avais demandé une équipe de première catégorie. J'ai eu l'équipe B, mais ils sont sympas quand même. Des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Ces postes sur ces chats ont des scores meilleurs que ces postes sur l'économie, mais ils trouvent tout de même le temps de venir nous prédire l'avenir économique du monde. C'est le seul économiste culturiste que je connaisse à l'été. Ça va ?
Ça va, ça va.
Vous avez séché un peu ?
Un tout petit peu.
Christopher Dembig, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Est-ce que c'est pas déprimant de faire un post sur un chat qui n'a aucun intérêt et qui fait des milliers de vues et de retweets, ouais, et de publier des trucs toute la journée sur l'économie allemande mondiale et que, ouais, tout le monde s'en fout?
Un peu, mais ça montre effectivement pourquoi les influenceurs fonctionnent aujourd'hui. Alors,
d'accord. Et est-ce que vous me conseillez de remplacer tous les invités par des chats?
Je pense que ça marchera encore mieux peut-être même.
Il a passé son été, comme d'habitude, à la cour de Versailles, mais il a décidé de venir au galop quand il a compris que la colère du peuple grondait, qu'une nouvelle révolution était possible. Louis de Montalembert, président de Pléiade AM, ça s'écrit, alors pour ceux qui font l'erreur, avec un E, apostrophe, et avec un E,
accent,
et avec un I, donc il n'y a pas de tréma sur le I de Pléiade, je ne sais pas qui.
Comme vous le faites
ça
régulièrement.
Comme je le fais régulièrement. Ça va ?
Très, oui, bien, merci Marc.
Le peuple gronde ?
Le peuple gronde, je ne sais pas, on verra, oui.
Bah, le peuple a besoin de se chauffer.
Absolument, mais donnez-leur des brioches.
Ah, dans votre château, vous en foutez, vous. Les États-Unis sont les grands gagnants de la situation géopolitique, militaire et économique actuelle. Yes. Et nous, ça c'est sûr, hein. Yes. Ça c'est vraiment un carton plein. Hein. Et nous avons la chance de l'avoir, elle qui nous ouvre la porte de ce pays miraculeux, notre statue de la liberté, Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Comment ça va?
Bonjour,
c'est
Marc.
Bien passé?
Très bien.
Bon, les États-Unis, c'est...
Ah bah oui, on va en parler.
Ouais, je sais que Louis de Montalembert est très admiratif. Et puis, c'est l'héritage de Donald Trump. Il a raison, hein. C'est pas que ce qu'a fait Joe Biden. Il observe, analyse, décrypte, explique l'économie avec un vrai talent. Il est devenu un des piliers de cette émission. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Ça y est, vous êtes déjà sur plateau. On vous avoue plusieurs fois sur BFM. On peut plus se passer de vous. Vous êtes content?
Oui, enfin...
Vous êtes fier?
Il faut déjà avoir des choses à dire. Justement, ça a été un peu l'objectif d'aujourd'hui.
Ah bon, d'accord, vous m'avez fait peur. Il faut déjà avoir des choses à dire, j'avais l'impression que vous n'aviez rien à dire. Allez, on démarre, donc nouvelle formule, un peu. On va commencer par le mot de la rentrée. Je vais vous demander, chers amis, de choisir entre inflation ou récession. Il est loin le temps où les banques centrales expliquaient qu'il n'y avait pas d'inflation. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, puis qu'elle serait temporaire. C'était il n'y a pas très longtemps non plus. Il y a quelques invités qui disaient la même chose, je ne vais pas donner de nom. Les records tombent les uns après les autres avec des taux d'inflation. Et tout le monde se dit, non mais c'est pas moi, qu'est-ce que j'ai dit? Avec des taux d'inflation qui commencent à s'approcher des 10%, voire même de les dépasser. Et évidemment, la baisse du pouvoir d'achat pèse sur la croissance et le spectre de la récession se profile maintenant. Christopher Dembig. Inflation, récession ou les deux, mon capitaine?
Bah, je choisirais plus l'inflation qui est pour moi plus problématique que la récession et éventuellement si on parle de récession technique. Sur l'inflation, je pense que le pic d'inflation, il a quand même été dépassé. On a quelques éléments assez probants aux États-Unis. Le problème va plutôt rester du côté européen où finalement, nous, notre inflation, la vraie problématique derrière cela, c'est la crise énergétique. Alors bien évidemment, là par exemple, les derniers chiffres sur les quelques dernières semaines montrent que sur les marchés gros, les prix énergétiques diminuent. Mais on a atteint des niveaux qui étaient stratosphériques. Hein. Par exemple, juste pour donner un ordre de grandeur, sur les contrats à terme à un an de livraison pour la France, par exemple, on était au-dessus de 1000 euros le
mégawatt-heure,
tout à fait, l'électricité, merci, alors qu'il y a 2-3 ans de cela, lorsqu'on était à 75 euros, c'était déjà...
On était à 85 il y a un an.
Exactement.
On a fait quasiment x12 en un an.
Et la progression est quand même extrêmement constante. Derrière cela, ce qu'il faut voir, c'est que la crise énergétique, elle est en partie structurelle. Alors, on a les problèmes franco-français du nucléaire, où il y a des problèmes de corrosion qui ne seront pas résolus avant plusieurs années d'après le régulateur. Et surtout, vous ajoutez à cela tout simplement que la réduction sur la dépendance au gaz russe, ça va pas disparaître du jour au lendemain. On a un problème d'infrastructure. On sait que les infrastructures, il faut les construire, ça nécessite du temps. Et sur la transition énergétique, on pourrait en parler des heures, mais aujourd'hui, en tout cas, on est d'accord. Le mix énergétique en tant que tel ne permet pas d'être extrêmement dépendant des énergies renouvelables. Donc vous avez quand même cette problématique énergétique qui va être inflationniste à moyen long terme pour l'Europe. Ça veut dire à minima des niveaux d'inflation qui seront durablement plus élevés, et très certainement pour les banques centrales ça va être un vrai challenge, parce que pour la BCE, alors elle peut augmenter les taux, elle va augmenter les taux, ça peut agir sur la demande, mais le problème finalement européen, il est plutôt au niveau de l'offre, et là ça va être un sujet qui va rester sur la table assez longtemps. C'est pour ça que je pense que l'inflation est le vrai souci de très long terme, avec derrière cela bien sûr qu'est-ce qu'on fait. Juste un mot, Bruegel a publié une étude, depuis septembre 2021 vous avez quand même 44 milliards d'euros pour la France qui ont été mis sur la table pour compenser la hausse de la facture énergétique, à la fois ménages et entreprises, dont 20 milliards pour le bouclier tarifaire. Qu'est-ce que vous faites? C'est la moitié du budget de l'éducation nationale, du budget annuel. Est-ce qu'on continue ainsi et c'est le quoi qu'il en coûte pour toujours? Le gouvernement nous dit c'est pas ça. Ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec un monde d'inflation élevé? Et là, c'est plus compliqué.
Mais d'ailleurs, le discours a un peu changé. Hein.
Ah, complètement.
Les éléments de langage de Bruno Le Maire, on est passé de on va vous protéger contre tout et contre n'importe quoi à on va essayer de
contenir. Faire du ciblage, exactement. Ça va être compliqué. Même dans tous les cas, même si on fait du ciblage pour les finances publiques, ça va quand même être un peu dur pour tous les pays européens.
Denis Ferrand, le mot de la rentrée, inflation ou récession ?
Récession parce qu'inflation. C'est plutôt ça. Et je pense que c'est très important de séquencer les deux événements. Et il faut le regarder peut-être à trois niveaux. Je pense déjà à l'échelle mondiale. L'inflation, en fait, c'est un prélèvement de pouvoir d'achat, mais on ne commerce pas avec Mars. Et donc, face à ce prélèvement, il y a des gagnants. Le problème, c'est que ceux qui perdent, ceux qui ont un prélèvement de pouvoir d'achat, les économies occidentales, on va dire, parce qu'il y a le prix des matières premières, il y a les prix de l'énergie qu'a évoqué Christopher à l'instant, eh bien, eux subissent le prélèvement, et donc cela ralentit la demande. En face, les économies qui gagnent, qui sont gagnantes dans l'histoire, ce sont des économies comme le Moyen-Orient, la Norvège, la Russie également. Ce sont des pays qui n'ont pas une capacité à stimuler l'économie mondiale à hauteur du prélèvement qui s'exerce sur les économies occidentales. Et donc ça vous fait une récession à l'échelle globale, parce que vous avez une redistribution des cartes à l'échelle mondiale. Après, le deuxième point, et là il faut tout à fait distinguer ce qui se passe aux États-Unis de ce qui se passe en Europe, c'est qu'on va aller vers une récession parce qu'il y a de l'inflation par la demande aux États-Unis, et face à une inflation par la demande, la réponse c'est, enfin, vous le connaissez, vous le répétez dans une newsletter que je regarde tous les matins très attentivement.
C'est gentil.
Très attentivement, j'insiste. Et c'est vraiment la réponse, ça passe par les taux et on entre dans une mécanique très classique que l'on connaît. Dans le cas de l'Europe, c'est en revanche très particulier. Ce n'est pas une inflation par la demande, c'est une inflation par l'offre, c'est une inflation qui tient à une incapacité à accéder ou bien de première nécessité. La question de l'énergie, c'était la question de l'approvisionnement, c'est aussi la question des ressources en main-d'œuvre.
Mais on peut pas être beaucoup plus simple pour l'Europe, c'est pas juste un problème de gaz. Parce que franchement, plus je lis, plus je regarde, et plus je me dis que non, c'est pas vrai, la main-d'œuvre, c'est pas ça qui fait l'inflation. Non, mais pétrole, il a rebaissé. Ouais. Le prix des matières premières alimentaires, il a rebaissé. En fait, le seul problème qu'on a aujourd'hui en Europe, et particulièrement en France, c'est le prix du gaz, non ?
Oui, alors ça, c'est vraiment l'élément qui est extrêmement urgent.
Je veux dire, si le gaz rebaissait, je dis pas qu'il va rebaisser, oui. Mais s'il rebaissait, je vois pas où est l'inflation.
Oui, mais parce qu'on est rentré d'ores et déjà dans une mécanique qui est inflationniste. Les États-Unis nous exportent leur inflation au travers de l'appréciation du dollar. Ils nous exportent aussi les réponses à l'inflation au travers de la remontée des taux qui va intervenir. C'est jeudi prochain que la Banque centrale va décider dans quelle ampleur elle va remonter les taux, mais on le sait qu'elle les remontera. Et donc les États-Unis nous exportent les conditions de l'inflation au travers de l'inflation importée. Et puis la mécanique s'est mise en branle. La mécanique en termes d'évolution salariale est d'ores et déjà amorcée. Et vous avez une propagation, c'est très intéressant de regarder, par exemple, dans l'indice des prix en France uniquement, vous avez les prix des produits manufacturés font plus 3,5% sur un an. Ça paraît peut-être pas exceptionnel, mais les prix des produits manufacturés, en tendance, ils baissent. Maintenant, on n'a jamais connu, depuis 30 ans, une hausse aussi importante des prix des produits manufacturés.
Donc vous êtes un peu dans le camp, je ne suis pas du tout dans ce camp-là, hein. Vous êtes dans le camp de Christopher, c'est-à-dire que vous dites, en Europe, on va parler des États-Unis, mais vous dites en Europe, on a une inflation structurelle. J'y crois pas du tout. Je pense qu'elle est totalement conjoncturelle.
Non, c'est plutôt que les États-Unis ont probablement passé leur pic d'inflation. L'Europe, en revanche, n'y est pas encore. Et ensuite, il sera temps d'examiner si on passe véritablement dans une inflation structurelle. On va encore avoir des chiffres d'inflation élevés. Elle ralentira un moment ou un autre. Mais ensuite, s'exerceront des effets beaucoup plus structurels, beaucoup plus déterminants.
Virginie Robert, vraiment le contraste entre les États-Unis, on le voit, on va en parler tout à l'heure avec l'euro, il est frappant, quoi.
Oui, il est frappant, mais c'est exactement ça. C'est les raisons de l'inflation sont différentes et elles sont maintenant exacerbées avec tout ce qui s'est passé avec le conflit en Europe. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant Biden, il utilise un nouveau terme. Powell, pardonnez-moi, c'est growth recession, c'est-à-dire que oui, la récession, elle est nécessaire. Nécessaire pour arrêter cette surchauffe. Et je suis d'accord pour dire que je pense qu'on a passé ou qu'on est en train de passer le pic de l'inflation aux États-Unis. D'ailleurs, il y a déjà des signaux. Je pense que ça met du temps si on regarde par rapport à le passé parce que, évidemment, c'est une surchauffe, un choc de demande qui a été tel que le lag entre les premières décisions, il est beaucoup plus long que ce qu'on a pu voir dans le passé. Mais on voit bien que le marché de l'immobilier a commencé vraiment à souffrir. On parle même de récession immobilière aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier point. Et quand on regarde les derniers éléments sur l'inflation, le CPI, enfin donc l'inflation au prix et consommation, ce qu'il faut regarder aux États-Unis, c'est vraiment le core, donc hors énergie. Et on voit bien une tendance à la baisse. Et traditionnellement, il y a un effet de saisonnalité également aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a Labor Day, donc c'est lundi, hein, c'est la rentrée, c'est back to school, et en général, après, les Américains, sur cette partie-là, jusqu'à Thanksgiving, il y a une tendance à, ok, on revoit la copie et on se serre la ceinture. Donc, et on commence à voir de la différenciation au sein des sociétés, à celles, évidemment, qui ont continué, les résultats étaient bons, on ne remet pas ça en cause, mais néanmoins, quand même, on voit bien, même dans l'industrie, il y a certains sous-segments ou dans la consommation discrétionnaire où là, les carnets de commandes sont revus à la baisse.
Louis de Montalembert.
Moi, je vais plutôt être contrariant par rapport à mes amis économistes, même s'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler du sujet, mais je vais plutôt être sur le côté récession. C'est-à-dire que j'entends bien qu'il y a des forces inflationnistes structurelles, mais après tout, sur le pétrole, ça fait depuis 2014 qu'il manque 200 milliards d'investissements dans les infrastructures pétrolières. On sait qu'il y a la transition énergétique. Tout ça est exacerbé, effectivement, par la crise en Ukraine. Mais néanmoins, il y a aussi en face des forces déflationnistes structurelles, au premier chef desquelles la démographie. Ouais. On a tous vu cette nouvelle prévision d'un cabinet de recherche américain qui prévoyait une réduction de moitié de la population mondiale d'ici à 2100, et ça paraît à peu près cohérent. La chose qui, moi, m'inquiète plus, c'est l'aspect récessif, c'est qu'effectivement, quand on fait référence à une période très inflationniste des années 60-70, il y avait une indexation des salaires. Mmh. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que les salaires n'augmentent pas aussi vite que ce que j'appellerais encore un choc de prix pour l'instant. Et donc, ça mange dans le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, dans la consommation, et donc ça appuie nécessairement sur l'économie. Et pour moi, ça va conduire à une récession si en plus on a cet élément... En Europe et peut-être aux États-Unis. Si on augmente les taux...
Technique aux États-Unis. Technique. Parce que les fondamentaux économiques américains sont très forts.
Non, ils sont très bons, mais je ne sais pas définir.
Important. Oui, c'est quand même très important.
Mais enfin, avec la Chine en plus, qui est dans un état économique calamiteux, c'était quand même 25% de la
croissance. Par choix idéologique.
Oui, mais une fois qu'ils ont allumé la mèche, on a du mal à la rééteindre. Donc c'est pour ça que, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt la récession.
Alors justement, on passe à la question de la rentrée, évidemment, et là vous allez m'éclairer, j'ai une question toute simple, quand tout cela va-t-il s'arranger?
Comment
Oui, parce qu'on dit plus tard, là on veut savoir maintenant ce qui va se passer de différent, quand est-ce que tout cela va s'arranger et comment? Qu'est-ce qui va débloquer la situation?
Justement, c'est bien le diagnostic premier de la contrainte qui s'exerce sur chacune des économies qui va donner la temporalité de la résolution du problème. Dans le cas des États-Unis, il faut laisser faire les mécaniques habituelles. C'est-à-dire qu'on voit très bien le message qui est passé par Powell à Jackson Hole la semaine dernière, mais également dans le plan qui a été voté pendant l'été. Mmh. Le plan de lutte contre l'inflation. En fait, vous vous rendez compte que ce plan de lutte contre l'inflation, contrairement à ce que l'on voit en Europe, où on va dire on va lutter contre l'inflation en mettant de l'argent public, ben là, au contraire, ils en retirent aux États-Unis. C'est bien une manière de dire qu'on a fait le diagnostic de ce que notre problème, c'est un problème d'excès de demande. Alors arrêtons de faire comme les Européens, ne faisons pas plutôt comme les Européens, et on en retire de la chaudière. Donc on voit bien qu'il y a un vrai diagnostic, et là, la mécanique, elle va se mettre en place.
Et d'ailleurs, c'est quand même agréable de voir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de voir une mécanique économique sans apprenti sorcier que sont les banques centrales se faire naturellement. C'est-à-dire, ouais, on a de l'inflation, ça réduit la demande, on monte les taux d'intérêt. Enfin là, on a presque l'impression de retrouver les cours d'économie.
Oui, tout à fait, mais l'économie américaine, par certains aspects, c'est une économie de manuel économique.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est tout à fait formidable. On voit les réactions qui se font, aussi parce que les meilleurs économistes sont américains, même s'il y en a quelques-uns qui sont très bons sur ce plateau.
Oui, évidemment.
Mais et essentiellement, ils sont américains. Et donc, on voit bien cette compréhension. Donc
pour les États-Unis, vous dites, pas d'inquiétude, on laisse le truc se faire naturellement.
Ouais,
il va y avoir une autorégulation de l'économie.
Et il y aura temporairement des chiffres qui ne seront pas terribles.
Oui.
L'emploi, qui est quand même quelque chose qui est assez hallucinant. Hein. On a deux trimestres de recul du PIB. Et on a 500 000 créations nettes d'emplois depuis le début de l'année, chaque mois. C'est 500 000 par trimestre en zone euro, hein, pour donner un ordre de grandeur. Donc là, ça se fera. En revanche, en Europe, c'est un problème d'offre. Et c'est un problème donc d'adaptation des conditions de la production, et ça prend plus de temps.
Oui et non.
Alors il faut...
Oui et non. Si demain on résout le problème du gaz, et on va le résoudre,
oui,
d'une façon ou d'une autre.
Oui, mais demain est quand même plus loin quand on doit s'attaquer à l'offre. Vous remettez en place des circuits d'approvisionnement, vous mettez des nouveaux canaux commerciaux, vous développez des nouvelles technologies.
Donc une fois de plus, vous dites que nous, on va souffrir beaucoup plus longtemps. Vous êtes d'accord avec ça?
Complètement. Je pense que le diagnostic américain, je ne reviendrai pas parce que c'est parfait. Ouais. Sur l'Europe, je rajouterais juste qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si on résout le problème du gaz, disons cet hiver, mais vous aurez quand même des cuves qui seront à vide pour 2023, donc fin 2023, donc on n'a pas résolu le problème. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les terminaux gaziers sont complètement dépendants de la Russie. Donc on doit en construire des nouveaux. Vous en aviez certains qui étaient déjà en construction, notamment en termes de gaz naturel liquéfié. Alors c'est pas très vert, mais c'est la nécessité aujourd'hui. Il n'y a que deux pays qui s'en sortent bien aujourd'hui en termes de terminaux de gaz naturel liquéfié, c'est l'Espagne et la France. Ils en ont suffisamment. S'ils doivent pas, bien sûr, exporter ce gaz ensuite à d'autres pays interconnectés. Mais tous les autres, Italie, etc., vous avez des projets qui sont en construction, ça va prendre plusieurs années, sans compter que vous rajoutez un problème franco-français qui est quand même ce problème du nucléaire. Si vous regardez la courbe de production de nucléaire qui a fortement chuté quand même en l'espace de quelques mois, parce que finalement depuis le printemps on a des difficultés, donc vous rajoutez un problème qui est structurel parce que ça va durer longtemps. Et même si les entreprises ont parfaitement, je pense, compris cet aspect-là, le directeur général de Carrefour l'a rappelé par exemple à la réunion du MEDEF à la rentrée, c'est-à-dire on est dans un monde d'inflation qui est là pour rester, il faut s'adapter, mais ça va être extrêmement compliqué. Surtout la grande question, c'est est-ce que le plug aide publique, il sera là ou pas? On voit par exemple au Royaume-Uni, où vous avez bien sûr le prochain Premier ministre qui sera annoncé lundi prochain, on commence à voir qu'on discute des mesures de soutien, mais on est très loin des mesures de soutien promises en Europe occidentale, en Europe continentale.
On rappelle simplement que le taux les tarifs de l'électricité sont limités à 4% et ils vont augmenter de 80% en Grande-Bretagne.
Mmh. Exactement, donc ça donne un ordre de grandeur, on voit très bien quand même comment on gère cette situation. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce que va faire l'Union européenne en tant que telle dans les prochains mois? Est-ce qu'on maintient de l'aide publique ou on le maintient pas? Et ça, ce sera un élément important pour les entreprises. Mais aujourd'hui, elles ont assez peu de visibilité, à part considérer qu'effectivement, elles doivent s'ajuster à un environnement inflationniste.
Oui, mais justement, je ne veux pas rentrer dans une discussion macroéconomique pure, mais vous dites qu'on est dans un choc d'offres en Europe, mais finalement, la demande va quand même commencer à se résorber et à reculer, et donc ça va avoir un impact.
Oui.
Sur l'équilibre, c'est-à-dire que si on a une consommation, une récession, une consommation qui diminue, une récession, finalement on aura moins besoin de tout ce qui coûte cher.
Sur la dynamique de la demande, et pour faire écho à ce que Louis évoquait tout à l'heure, je pense qu'effectivement les salaires n'embrayent pas jusqu'à présent sur l'inflation, en tout cas n'embraye pas la hauteur de l'inflation, mais il faut bien regarder aussi le comportement de la masse salariale. Et quand on prend la masse salariale, c'est-à-dire le produit de l'emploi par les salaires, où on regarde les deux termes, en fait, en Europe, on a fait un peu comme un trade-off, plus d'emplois pour un peu moins de salaire. Il est probable que l'année... Et donc ça, au niveau macroéconomique, ça vous fait quand même encore une demande qui est là. Mmh. Pas forcément une demande individuelle, mais une demande globale qui est assez forte. Il est probable que sur 2023, on ait le trade-off qui se fasse dans l'autre sens. Plus de salaire, mais en revanche, moins d'emplois. Et là, c'est pas du tout les mêmes mécaniques qui se mettent en marche, mais au total, pour une demande qui, au final, sera quand même un peu plus faible que ce que l'on a.
Quand tout cela va-t-il s'améliorer?
J'ai pas entendu de réponse et de date, de vos...
Non, ils ont... Ouais, mais je remarque. Mais c'est noté.
Je veux pas vendre mes petits camarades.
Non, mais vous savez que je favorise la délation, mais je l'avais noté.
Moi, le 21 mars à 12h30.
C'est fini. C'est précis.
Tout est bien. Je pense que aujourd'hui, résumer par rapport à ce que vous disiez sur la hausse des coûts qui entraîne une attrition de la demande et par conséquent un rééquilibrage, ça ne fonctionne que jusqu'à un certain niveau. Là, on voit que l'appareil productif ne peut pas s'adapter au-delà d'un certain niveau. Sinon, on arrête complètement des pans entiers de l'économie.
Mais quand on est dans l'œil du cyclone, l'œil du cyclone, on dit toujours ça. C'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est que quand il y a eu la guerre en Russie, la guerre en Ukraine qui a démarré, personne n'avait prévu qu'on soit dans cette situation
sur le
gaz. Et aujourd'hui, que le gaz est au plus haut, les gens disent on n'y arrivera
jamais. Non, c'est pas ça. C'est que je dis pas qu'on n'y arrivera jamais, mais les conséquences peuvent être beaucoup plus profondes si on atteint un certain seuil d'attrition de demande. C'est tout ce que je dis. Ouais. Par exemple, le choc pétrolier de 1974 a entraîné une récession qu'il a été long de
ouais, mais on n'est pas dans les années 70.
On a quand même un problème qui est similaire, qui est tout d'un coup un input de l'économie. Là, c'est même pas que son prix devient délirant, c'est même qu'il y en a un bout qui disparaît. Et donc ça, on n'a jamais été confronté à ce genre de problème. Donc, pour fixer le problème, alors, personne ne cite évidemment la fin de la guerre en Ukraine parce que plus personne n'y croit.
Sauf moi.
Ah bon. D'accord, bah vous nous donnerez la date, d'accord. D'accord.
Non, je ne donnerai pas de date, mais je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ont la main sur la fin de la guerre, en tout cas sur la trêve, puisque c'est quand même eux qui alimentent en armes l'Ukraine et qui lui permettent de se défendre, hein, que ce soit bien ou bon, la question ne se pose pas, c'est pas le sujet ici. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ils commencent à subir eux-mêmes les conséquences de la guerre en Ukraine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, à un moment, ils seront quand même aussi obligés de signer, siffler la fin de partie.
Est-ce qu'ils subissent vraiment, Marc?
Oui, ils subissent l'inflation. Ils subissent l'inflation.
Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Et moi, je dis, c'est le grand gagnant, effectivement.
Ils la subissent aussi.
Ils vendent des armes, ils sont bien. Et l'affaiblissement de l'Europe...
Ah voilà, ça se réveille. Il fallait que je donne un argument un peu...
Oui, non, mais l'affaiblissement de l'Europe est toujours un point pour les États-Unis. Voilà. Donc moi, je suis pas sûr qu'ils sifflent la fin du conflit.
Moi, j'en suis totalement.
D'autant plus que les États-Unis sont exportateurs nets d'énergie.
Oui,
ils sont quand même très gagnants dans l'histoire.
Qu'ils soient gagnants, on le sait. On n'aura pas le temps d'en parler, mais on le voit sur le dollar, on le voit sur l'euro. Oui,
c'est le seul point. Alors le dollar, c'est double effet. C'est-à-dire que chez nous, c'est effectivement c'est l'inflation importée, et pour eux, pour certaines entreprises, c'est quand même un problème. Parce que c'est pas juste face à l'euro, hein, c'est aussi autres devises.
Oui et non.
On verra combien de temps ça dure. Mais pour revenir à votre première question, ma réponse, c'est juste de dire oui, ça ira mieux plus vite aux États-Unis qu'en Europe, ça c'est sûr. Et je pense que ça peut aller assez vite parce qu'on est sur cette. Et quelque part, de revenir à cette normalisation, c'est plutôt une bonne chose. Après, à long terme, il faut quand même pas oublier que ces effets de taux d'intérêt, de krach obligataire, quels vont être les effets long terme de part et d'autre, hein. C'est pas anodin.
Hein, quand vous dites krach obligataire, vous parlez de la baisse de 20%
des taux, la charge
des marchés
de la dette,
obligataires, des marchés d'emprunt.
Ça échappé, a quand même augmenté ces dernières années, et donc pour les différents États. Donc il y a quand même aussi là un sujet, mais ça c'est encore un autre chapitre.
C'est un sujet ça.
Oui, tout à fait, parce que derrière ça va être des choix de location. Sauf à imaginer que dans le cas des États-Unis, eh bien il y a encore des afflux de capitaux extrêmement importants qui se font, en particulier des pays que j'évoquais tout à l'heure, parce que quand il y a des pays qui accumulent des excédents courants sans les réintroduire en termes de demandes additionnelles, mais ils vont les placer. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir où vont les fonds des pays qui sont actuellement les gros gagnants en termes d'échanges internationaux. Ils vont plutôt acheter du dollar et ça, enfin acheter des titres américains, et ça participe plutôt à la contention du risque de perte d'actifs.
Au risque d'être caricatural, ce que je déteste, vous êtes plutôt négatif sauf pour les États-Unis. Vous êtes très positif, Virginie, sur les États-Unis, mais assez négatif sur le reste. Christopher, vous êtes négatif sur tout?
Non, pas près. États-Unis. Mais même Chine, je ne suis pas si négatif que cela.
Louis, je vous mets dans le camp, parce que là, c'est quand même assez sombre, hein, ce que vous nous prévoyez, sauf pour les États-Unis où on sent l'idée que globalement tout va bien pour eux.
Moi, je suis plutôt positif sur les États-Unis avec une inquiétude du côté du politique, avec une société
qui est en train de se rééquilibrer.
Hein. Oui, mais qui est tellement fragmentée, avec 60% des Américains qui pensent qu'il y a une guerre civile possible.
Ouais. En attendant, ce qu'on voit se profiler dans les sondages, moins brutal que ce qu'on attendait.
Mais pas l'hémorragie pour l'Europe. Économiquement, plus inquiet pour l'Europe, c'est sûr. sûr.
Et vous dites, on a quelques secondes, pourquoi la Chine, vous n'êtes pas inquiet?
Parce que
moi, je suis très inquiet pour la Chine.
Par exemple, on a un niveau record d'impayés dans le secteur immobilier, etc. Ça, c'est très clair. Mais la réalité, c'est que la Chine, il y a une date qui est importante. Donc, c'est le mois prochain, vous avez le 20e congrès du Parti communiste, reconduction pendant 5 ans du président chinois. Il a tout intérêt à la stabilité. Et on le voit très bien, il y a des rumeurs de marché sur une dévaluation du yuan comme en 2015. Mais la réalité, ça ne va pas se passer. Aujourd'hui, la Chine a tout intérêt à stabiliser. Et c'est une économie encore qui n'est pas très ouverte. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il y a tout un pan qui n'est pas ouvert.
Ouais. On y reviendra. On se retrouve tout de suite en deuxième partie de l'émission.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve pour une deuxième partie de l'émission, une émission spéciale rentrée après une première partie qui, et c'était assez étonnant, a été de bonne facture. Donc vraiment, je suis le premier surpris. On se retrouve donc avec Denis Ferrand, pleine forme. Hein. La rentrée, les vacances vous ont fait du bien. Bon, Virginie Rauer, c'est pas la peine, donc ne l'a pas changé. Hein. Les États-Unis et encore les États-Unis. Louis qui refuse de donner des dates précises alors qu'on lui pose des questions qui sont quand même simples, à savoir quand est-ce que la crise va se terminer. Et Christophe Demby qui, quel que soit le sujet qu'on aborde, revient à la Chine.
C'est vrai.
Vous avez remarqué ?
C'est vrai, j'avoue, oui. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement.
Alors, juste avant qu'on parle des marchés du premier thème, je voudrais revenir, parce qu'on a parlé brièvement de la Chine, mais je voudrais revenir à ce que vous dites, parce que vous dites, il y aura le congrès. Ouais. Une fois le congrès passé, on va revenir aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'économie. Il y a une deuxième école qu'on lit d'analyse qui disent en fait, Xi Jinping, l'économie, finalement, il s'en fout, il est dans un combat idéologique qui ira bien au-delà du congrès.
Il a une vision très clairement sur du long terme, mais il y a quand même des priorités très court terme. Il y avait deux écoles.
Plus Mao que Deng Xiaoping.
Oui, voilà. Mais il y a deux écoles quand même en Chine, en interne, et il y en a une qui a gagné. C'est-à-dire, au cours du printemps, vous aviez un débat, est-ce qu'on fait beaucoup de stimulus ou pas? Parce qu'il y a eu des hésitations si vous regardiez les mesures qui avaient été prises au tout début du printemps. À partir de fin mai-juin, on a bien vu qu'il y a eu des mesures de stimulus qui ont commencé à être mises en œuvre. Alors, on va pas sur les horizons 2009-2010 pour la Chine. Mais très clairement, vous avez une volonté d'ajustement fin. L'idée, c'est, on stabilise l'économie. On va pas débattre du niveau de croissance, mais à un niveau de croissance, en tout cas, plus bas. Et, ça nécessitera des ajustements, des mesures au cas par cas. Alors, c'est pas du gros stimulus, mais pour autant, ils vont mettre sur la table quand même plus de mesures. Alors, c'est très clairement orienté immobilier.
Donc l'économie, hein, c'est quand même important pour Xi Jinping.
C'est important, et surtout qu'à un certain stade, vous avez une sorte de fatigue liée au lockdown, au confinement, qui va commencer à être difficile à gérer.
Allez, on va parler. Bah oui, faut quand même parler des marchés. Hein. Allez. Le CAC 40 depuis le début de l'année, moins 15. Le S&P, moins 16,7. Le Nasdaq, moins 24,6. L'Eurostock, moins 18,8. Le Nikkei, moins 4% environ. Shanghai, moins 12%. Bon, la séquence des événements, vous la connaissez. L'effondrement au premier semestre. On a rebondi à partir du mois de juillet. Puis on a rebaissé au mois d'août. Alors, on parle que des actions. Et Virginie avait raison tout à l'heure. On n'a pas assez signalé qu'on est rentré en territoire bear, c'est-à-dire en territoire baissier, sur ce qu'on appelle le marché obligataire. Le marché obligataire, c'est le marché des taux d'intérêt, c'est le marché des emprunts d'État et des entreprises. On a baissé, c'est-à-dire que les taux ont monté, on a baissé de plus de 20% par rapport au niveau de janvier 2021. Donc c'est un bear market. Il faut le signaler, puisqu'on parle toujours du marché des actions, pas assez du marché de taux. Alors, moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, et puis il y en a d'autres qui le voient à moitié vide. C'est-à-dire que je me dis qu'avec une guerre en Ukraine, les niveaux d'inflation qu'on connaît, toutes les catastrophes qu'on a autour de nous, le dérèglement climatique, tout ça, finalement, oui, on a baissé, mais on a baissé par rapport à des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Absurde, on l'a souvent dit sur ce plateau. C'est un réajustement, un re-rating. On se prépare à un grand crack et un grand soir, ou est-ce qu'on a vécu le gros de la baisse? Virginie Robert, voilà une question simple.
Ah oui, une question très simple. Merci Marc.
Je vous sens un peu...
Si les choses restent identique avec le déroulement effectivement de tous les scénarios que nous avons dit.
Prenez du temps pour réfléchir à votre
grand crack. Okay. Je ne crois pas au grand crack. Je ne dis pas que ça va être que la route va être toute lisse et sympathique. Mais je ne crois pas au grand crack. Mais vous savez bien Marc, parce que depuis très longtemps que les grands cracks, ils arrivent souvent, vous attendez à droite quelque chose et ça arrive par la gauche. Donc il faut se méfier parce que souvenez-vous, le Covid, c'est quand même le meilleur des enseignements, ce qui peut perturber nos marchés. Donc il faut toujours être prudent. Mais moi, je suis aussi dans le verre à moitié plein. D'abord, je pense qu'une crise produit toujours ses effets, l'analyse schumpeterienne, ça permet de d'envisager d'autres choses, de bousculer aussi un peu les choses. Ça prend du temps, mais quelque part, une fois de plus, revenir à des taux d'intérêt nominaux, puisque réels, on est encore négatif, mais nominaux positifs, de sortir d'une situation de plus de 20 ans où on alimente, peut-être qu'on va revenir à quelque chose de plus simple, plus sain et plus orienté business.
Ce qu'on appelle un peu le new normal.
Oui, voilà. J'aime bien le new normal, moi. Voilà. Donc, je suis plutôt vers à moitié plein.
Louis de Montalembert, vous qui appréciez beaucoup les verres et qui les videz régulièrement.
Surtout de bons vins de Bourgogne.
En fait, avec modération.
Absolument.
Je suis obligé de le dire.
Ah ouais, d'accord. Ce qui tient les marchés aujourd'hui, ce sont les excellents résultats des entreprises. Donc finalement, l'avenir des marchés, il se tient un petit peu là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises vont continuer ou vont moins souffrir de la crise?
Non, vous en êtes encore à penser que le niveau des marchés est lié aux résultats des entreprises?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que les marchés, effectivement, il y a des moments où ils sont dominés par la psychologie collective.
Et par les flux?
Non,
par les liquidités, par les taux d'intérêt.
Non, mais alors on va dire que beaucoup de flux sont aussi commandés par la psychologie collective. Et puis, il y a des instants de marché aussi à la microéconomie qui redominent le discours.
Au mois de juillet.
Aujourd'hui, on peut penser quand même, malgré tout, que ce qui a porté un amortisseur au marché, par rapport à ce que vous disiez sur l'amoncellement de risques et de crises, ce sont les résultats des entreprises. Moi, je suis incroyablement impressionné par, je regarde les entreprises de notre portefeuille d'action européenne, ont accéléré en termes de ventes par rapport à la croissance de 2021 qui était un rebond sur 2020. Donc ça, c'est un point important parce que c'est ça qui peut lâcher à un moment ou l'autre. On le voit quand même, hein, quand une entreprise déçoit les marchés, le cours s'effondre. Donc si tout d'un coup, il y a une récession des profits des entreprises, oui, là, on peut avoir des marchés qui vont plus bas. L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est finalement, depuis la séquence Covid, c'est l'adaptation des entreprises. Moi, il y a un cas de figure qui me passionne, celui de l'automobile. On est passé de... Alors, il y a une récession qui a commencé en 2017 sur l'automobile. On avait 95 millions de véhicules manufacturés à l'époque. On est descendu à 77 millions en 2020. Qui est le moment du Covid. Et c'est la première fois qu'on a une deuxième année dans laquelle on se retrouve à peu près dans le même étiage. Et là, on s'achemine vers une troisième année dans le même étiage. Même en 2008-2009, on n'a jamais eu ça. Et pour autant, les entreprises automobiles aujourd'hui sortent des profits historiques, tels qu'elles n'en ont jamais sorti. Donc ça, c'est un cas de figure d'adaptation de l'appareil productif que je trouve particulièrement intéressant et donc qui pourrait réconcilier cette idée que l'économie va pas très bien mais finalement les entreprises ou tout au moins certains pans de l'économie ou certaines entreprises s'en sortent mieux et c'est ça qui peut tenir dans une certaine proportion les marchés ou entraîner un rebond quand il y a des moments de faiblesse. Voilà, donc c'est moi ce que je guetterais, c'est la récession des profits ou pas.
Denis Ferrand, vous allez devoir arbitrer entre nous parce que moi je pense que le niveau des marchés est uniquement lié au niveau de la liquidité et au niveau des taux d'intérêt réels. Et donc on a eu une hausse des marchés depuis 2009 en ligne droite avec une accélération au rebond en 2020 uniquement parce que les taux d'intérêt se sont effondrés et que la liquidité était abondante. Et je pense malheureusement que c'est assez décorrélé des résultats des entreprises, ce qui est le contraire de ce que pense Louis de Montalembert.
Bon, c'est pour qui en sachant je ne fâcherai bien... que personne, sachant
non,
que
non,
c'est vous qui invitez.
Non, je vous inviterai quand même si vous dites que Louis a raison.
Non, en fait, je vais faire le jugement de Salomon plutôt. C'est que, en fait, la liquidité, elle va là où il y a des résultats. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé aussi.
Il est bon.
C'est horrible. Mais, il aurait pu faire l'ENA.
Au premier semestre, vous regardez les IPO aux États-Unis. Les introductions en bourse, c'est zéro ou quasi. C'était 400 milliards au premier semestre 2021. Les émissions d'obligations, plus la signature était dégradée, plus elles ont reculé par rapport à la même période de l'année 2021. Et donc, il y a toujours... La liquidité continue de faire les performances, mais cette liquidité, elle s'alloue de manière beaucoup plus sélective aujourd'hui que cela n'était le cas en 2021.
Et d'ailleurs, la progression des indices marque sur la période les différentes selon les zones géographiques et toujours évidemment en faveur des États-Unis.
Oui.
Il y a quand même un différentiel important.
Ouais, quand on voit le Nasdaq, c'est pas terrible hein, depuis le début.
Ah non, je parle sur longue durée.
Ouais, sur longue durée.
Ah oui. Même ouais. prendre le S&P 500 par rapport à un stock 600. Quoi. Donc,
Christopher Dembick, quand aux clients de Saxo Bank, vous dites le crack est derrière nous ou il est devant nous?
Non, on leur dit très clairement pas que le crack est devant nous, mais il faut être extrêmement sélectif.
Pour ne pas perdre des clients.
Non, pas uniquement. Mais vous avez par exemple, je pense que les flux jouent beaucoup. Si vous regardez par exemple, il y a eu beaucoup de flux, notamment avec les liquidités banques centrales qui sont allées s'orienter vers tout ce qui est fonds thématiques. Alors c'est la fintech, c'est la transition écologique, etc. Et on voit qu'il y a des flux sortants qui sont extrêmement massifs au cours des derniers mois. Ça va perdurer, très vraisemblablement. Et je pense que c'est plutôt sain parce qu'il faut faire un tri aussi dans ce type de valeurs qui ont beaucoup gonflé, parfois sans résultat derrière, qui était vraiment probant. Mais en termes d'opportunités, il y a plein de belles entreprises. Non, et Est-ce qu'il n'y a pas de crack devant nous.
Il n'y a pas devant nous.
Non. Est-ce que je peux poser une question à Valérie?
Ouais, Virginie.
Virginie, pardon.
Pas là.
Ouais. Sur Lululemon, allez. Parce qu'on a eu les résultats cette semaine. Et à chaque fois qu'il y a Lululemon, mais évidemment, j'y pense. Parce que c'est une des belles sociétés. Quand on parle en termes de stock picking, ça fait partie des belles boîtes.
Tout à fait, mais ils ont du pricing power parce qu'ils sont sur un segment plutôt luxe. Pardon, Marc, on fait une petite parenthèse.
Mais c'est vachement intéressant parce qu'on était en train de se poser des questions de crack et on en est à parler de jogging.
C'est l'agilité dont on parle. Cette société a bien compris qu'il fallait satisfaire le client. Ils ont lancé des nouveaux gammes de produits et notamment les fameuses baskets qui sont en rupture de stock partout. Donc voilà, il y a de l'agilité et ça continue. Oui, les résultats sont bons.
Allez, je vais vous poser la question d'argent de la rentrée. Là, je vais m'adresser aux gérants avec des taux de livret à 2%, des taux d'emprunt d'État qui remontent aussi vers ces niveaux. Est-ce que ces placements sont attractifs à nouveau, Louis de Montalembert? Est-ce qu'il y a une alternative à ce que vous essayez de nous fourguer depuis des années, à savoir les actions?
Je vais vous gratifier d'une réponse, malgré le fait que je trouve cette question totalement déplacée, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, placer de l'argent à 2% dans un contexte inflationniste à 9% aurait un quelconque intérêt? Dans quel esprit malade peut-on penser que ça soit véritablement intéressant de mettre de l'argent à 2%?
Dans quel esprit malade, donc, vous insultez 56 millions de Français?
Mais ça ne me pose aucun problème.
D'accord. Non, je voulais juste savoir. Collecte record en juillet 2022.
Mais Français,
d'accord. Non, je voulais juste être certain. Je voulais juste être certain.
Vous
voulez juste être certain que vous insultiez sur le plateau des millions de Français qui mettent leur argent. Donc vous dites que ce n'est pas une alternative. Il n'y a pas d'alternative aux actions. Vous restez dans le TINA.
Sur longue période, il a toujours été démontré que les actions rapportaient plus. Mais même si vous investissiez en août 2008, je veux dire, les actions sont mieux que les taux. Et surtout dans une période inflationniste.
Virginie Robert, plus sérieusement, parce que là on plaisante avec Louis et on ne parle pas sérieusement, mais plus sérieusement, aujourd'hui,
sérieux, hein.
Quelqu'un qui a une vraie allocation patrimoniale à faire, avec un risque équilibré, on va dire, pas prudent ni offensif, est-ce qu'il ne doit pas reconsidérer des emprunts d'État, un peu de livret A,
alors, et mettre un peu tout ça? Alors, livret A, moi, je mets ça dans le cash. Hein, c'est catégorie cash, parce que 2%, c'est mieux que du cash à la limite. Ouais. Mais avoir du cash aujourd'hui, oui, ça permet de gérer son risque. C'est une allocation. Les taux, alors, les obligations souveraines, moi, j'ai toujours été presque allergique. Donc, parce que ça me...
Mais là, quand même, 4% sur l'Italie, 2% sur la France,
non,
tout ça.
Non, mais ça peut aller à 5%. Et franchement, je préfère aller sur... À ce moment-là, il faut aller prendre plutôt du corporate bond sur des sociétés. Bon, alors moi, je ne suis pas sur ce segment. Mais moi, aujourd'hui, je dis soit actions et reconstituons quelques poches d'actions et pour le long terme.
C'est pas trop tôt.
Mais il faut commencer, Marc. Vous savez bien qu'il n'y a jamais un moment... Alors dans le rétroviseur, il y a un bon moment. Mais faut y aller tranquillement. Et puis, avoir du cash. Voilà, ça, c'est la soupape de sécurité. Et je comprends qu'on ait du cash en portefeuille.
Vous voulez vraiment acheter des bons du Trésor italien à 4%?
Non, je vous pose la question. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste.
Juste avant les élections.
Moi, je viens ici...
Ouais, c'est ça,
non, mais attendez,
avant,
je vous explique. Moi, je viens ici pour apprendre d'esprit supérieur. Et donc, je pose la question.
D'accord.
Christopher Dembick, le mot de la rentrée pour vous?
Sobriété énergétique, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Alors, il y a toutes les petites mesurettes.
On en parle beaucoup, mais on ne fait rien. Vous êtes
exactement, c'est
fait,
ça.
Oui,
vous avez,
très
énervant. On dit, il faut baisser d'un degré ou deux degrés dans les locaux, etc. Alors, bien sûr, ça diminue un peu la facture énergétique, mais fondamentalement, ça ne change pas la donne. Et changer la donne, ça veut dire investir dans le long terme. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas les investissements qui sont mis sur place. Et surtout, juste un mot, il ne faut pas croire
que... Vous voulez poser une question à Valérie?
Non, pas cette fois, à Virginie.
Valérie Roger, Virginie Robert. Louis de Montal. Oui, pardon, vous voulez
dire. Ah oui, j'avais juste un mot. Oui, il ne faut pas croire que dans le débat franco-français que ça peut tout se résoudre avec les énergies renouvelables. Et il faut un mix énergétique. Et même si j'étais un peu critique du nucléaire, parce qu'il ne faudrait pas mal interpréter, ça reste une bonne solution et les pays émergents misent beaucoup sur ça.
Philippe de Montalembert, le mot de la rentrée pour vous.
Moi, c'est Allemagne, Marc. Ouais. Avec le discours d'Olaf Scholz à l'université de Prague. J'ai trouvé très intéressant. Il dit on rentre dans une nouvelle époque. Finalement, il solde la période calamiteuse de Angela Merkel où on a vu tout le parc nucléaire être fermé, cette espèce de mercantilisme du gaz le moins cher possible
calamiteuse. En provenance de la Russie. Alors, je vous demande juste de regarder les graphes pendant la période d'Angela Merkel sur l'emploi.
Vous avez préparé,
le déficit commercial, le déficit public et la croissance.
Donc, allez-y,
continuez.
Donc, il remet l'Europe au centre, ce qui est intéressant, avec une réponse finalement au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, une réponse qui est un peu différente, même s'il reprend des éléments sur la souveraineté. Et il est pour un élargissement massif de l'Europe à beaucoup de pays et établir effectivement des moyens de défense collective. Donc c'est vraiment un tournant par rapport à une espèce d'égoïsme national très auto-centré de ces dernières années, qui est très intéressant.
Égoïsme national,
qui est très intéressant.
Les rachats d'emprunts d'État
massifs. C'est mon mot ou pas ?
Par la Banque Centrale Européenne.
C'est le vôtre.
Bah, c'est super
Valérie.
Transition parce que. Pour moi,
d'accord
Valérie.
D'accord avec vous.
Parce que...
Allez, Virginie Robert. Parce qu'on va finir par oublier votre nom. Virginie Robert.
L'effet collectif. Non, moi, c'est chacun pour soi. Justement. Ouais. Et je pense que ça va bien
rester ancré.
Chacun pour soi, parce qu'on voit, on est en économie un peu, comme l'avait dit notre président, de guerre, hein, et c'est chacun pour soi. Et aux États-Unis en particulier, il y a eu une nouvelle cette semaine, les fameuses puces en silicium qui sont utilisées pour tout ce qui est device, intelligence artificielle, etc. Eh bien, les sociétés comme Nvidia ou AMD, maintenant, il faut qu'ils aient des licences spécifiques pour pouvoir exporter en Chine ou en Russie. Et c'est assez intéressant parce qu'on pense que c'est juste pour préserver, pour peut-être.
C'est ce que je pensais, moi.
Oui, mais c'est aussi beaucoup utilisé dans tout ce qui est système de défense militaire.
Bah oui.
Et donc c'est chacun pour soi, voilà. Et ça, je pense qu'on va en entendre parler. Et il y aura d'autres mesures à suivre.
Denis Ferrand.
Alors Philippe m'a piqué le mot parce qu'il l'a déjà utilisé.
Philippe Dembic.
Oui, Philippe Dembic. Oui. C'est le mot étiage. Alors on peut le regarder pour l'industrie automobile. On peut aussi le regarder plus prosaïquement pour ce qu'il définit dans un premier temps, à savoir la hauteur d'un fleuve. Et ça s'applique au Rhin. Certes, il y a évidemment.
Là, vous m'avez perdu là.
L'étiage, c'est-à-dire que le Rhin a eu le plus bas niveau que l'on ait jamais observé a été atteint au courant du mois d'août.
Okay.
Et en fait, alors ça pourrait paraître totalement anecdotique au regard des sujets de sobriété énergétique, notamment qui a évoqué Christopher, mais...
C'est encore de la faute d'Angela Merkel, voilà,
non, là, je crois qu'elle n'est pas pour grand-chose.
D'accord. Non, parce que pour Louis de Montalembert, tout est de la faute d'Angela Merkel, mais allez-y.
Mais surtout, ça dit bien qu'on a encore une contrainte sur la production qui va s'exercer. C'est une autre forme de contrainte sur la capacité d'offre qui intervient, parce que derrière, c'est des péniches qui ne remontent plus le Rhin, ou alors il en faut trois, là, auparavant, on en mettait une, mais trois plus petites. Enfin, cela crée, ce faisant, un besoin d'adaptation qui va mettre du temps, parce qu'on est probablement passé sur quelque chose qui est durable. La précédente étiage, il avait été atteint en 2018 et ça avait enlevé 0,4 points à la croissance allemande. Là, on va tomber encore plus bas, sachant que le plus bas niveau du Rhin, il est atteint en octobre et novembre. Et donc, on va probablement...
Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de passer vos vacances sur des péniches.
Ouais.
C'est mon conseil.